Bonjour à tous. La France espère avoir trouvé le bon chemin pour éviter le confinement. Le variant anglais circule moins vite qu'ailleurs. Depuis ce matin, les frontières sont fermées et les contrôles renforcés. Selon un sondage, la majorité des Français est favorable à un confinement, à condition que les écoles restent ouvertes. Invité de ce journal, Yanis Roder, professeur d'histoire, géographie et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. L'enquête sur l'agression de Youri à Paris, 9 jeunes ont été mis en examen, 5 pour tentative d'assassinat. 4 mineurs et un majeur ont été placés en détention provisoire. Manifestation pro-Navalny aujourd'hui en Russie. La police anti-émeute multiplie les arrestations. Nous serons à Moscou dans un instant. Dans ce journal également, le football à Marseille, toujours en ébullition après les graves incidents d'hier devant le centre d'entraînement. Et on prendra des nouvelles de nos skieurs français à Chamonix pour la deuxième manche du slalom de Coupe du Monde. La météo, temps très agité aujourd'hui. 20 départements restent en vigilance orange, crue, inondation. Dans le sud-ouest, le nord et l'est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Et on va d'abord aller en Russie où la police anti-émeute fait une véritable démonstration de force face aux manifestations pro-Navalny. Les interpellations se multiplient alors que les partisans d'Alexei Navalny ont appelé aujourd'hui à une journée de mobilisation pour exiger la libération du principal opposant à Vladimir Poutine. Les forces de l'ordre ont donc procédé à des arrestations dans plusieurs villes de Russie et bloqué les accès au centre-ville. En direct de Moscou, on retrouve notre correspondant Claude Brouillot. Bonjour Claude.
Bonjour Frédéric.
Le pouvoir russe montre les muscles aujourd'hui.
Ah oui, écoutez, pour vous donner un ordre d'idée, dans une simple rue qui permet en temps normal l'accès à la place de la Loubianka, la fameuse où se trouve le siège du FSB, les services de sécurité russes, là où les manifestants voulaient se rendre, nous avons dénombré pas moins de 6 cordons de sécurité, 3 à chaque extrémité de l'artère. Au total, ce sont donc des milliers de représentants des forces de l'ordre, unités anti-émeutes, gardes nationales ou simples policiers qui ont littéralement cadenassé le centre historique de Moscou. Ce matin, les 8 stations de métro de l'hypercentre étaient inaccessibles et en milieu de journée, 3 autres ont été fermés. Dans un tel contexte, les sympathisants d'Alexei Navalny ont évidemment bien du mal à se regrouper, privés de leur leader, donc emprisonnés ou assignés à résidence. Ils essaient actuellement de rejoindre le lieu de détention d'Alexei Navalny. On a quand même le sentiment, Frédéric, d'une neutralisation relative qui intervient donc à 48 heures du procès d'Alexei Navalny, mardi, à l'issue duquel l'opposant principal à Vladimir Poutine risque jusqu'à 3 ans et demi de prison. Mais si les manifestants semblaient plus dispersés à Moscou et dans les grandes villes de Russie, cela ne signifie pas que la défiance vis-à-vis du pouvoir a faibli.
Claude Brouillot, merci, en direct de Moscou. Les chefs de mise en examen montrent la gravité des faits qui sont reprochés dans l'enquête sur l'agression du jeune Youri, 15 ans, mi-janvier à Grenelle à Paris. 9 jeunes ont été mis en examen, dont 5 pour tentative d'assassinat. Le jeune Youri avait été roué de coups alors qu'il était allongé à terre par un groupe d'agresseurs. L'affaire avait provoqué un vif émoi dans la classe politique, mais aussi auprès de plusieurs célébrités. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
5 jeunes mis en examen pour tentative d'assassinat et 5 ont été incarcérés en détention provisoire.
Oui, placement en détention provisoire pour 5 d'entre eux. En effet, 4 mineurs, ils ont entre 15 et 17 ans et un jeune majeur, tout juste 18 ans. Les 4 autres mis en examen, également mineurs et habitant majoritairement la commune de Vanves, sont quant à eux restés libres sous contrôle judiciaire. Ces distinctions s'expliquent notamment par le fait que tous ne sont pas suspectés d'être impliqués au même degré dans cette agression, partiellement saisie par les caméras de vidéosurveillance. 5 d'entre eux, vous l'avez dit, ont été mis en examen pour tentative d'assassinat, un 6e pour complicité de tentative d'assassinat, des qualifications criminel, passible de la cour d'assises, dont s'est d'ailleurs félicité l'avocat du jeune Youri et de sa mère, maître Francis Piner, précisant par ailleurs qu'il se constituera partie civile dès demain. Pour 3 autres jeunes, les infractions dont on les suspecte sont des délits, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, c'est-à-dire d'avoir probablement été dans la bande lorsque cette expédition punitive en représailles d'une rixe précédente a été décidée, mais sans avoir directement participé à la scène. Enfin, certains d'entre eux sont en plus mis en examen pour vol en réunion, notamment pour avoir dérobé le téléphone portable du jeune collégien de 15 ans.
Charlotte Piret, merci. Les contrôles sont donc renforcés depuis ce matin. Le pays est entré dans une nouvelle phase de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Frontières et galeries marchandes fermées, davantage de contrôle du couvre-feu pour tenter d'éviter un nouveau confinement. Il s'agit d'une mise en alerte, explique Olivier Véran dans le journal du dimanche. Mais si l'épidémie repartait à la hausse, poursuit le ministre de la Santé, nous n'avons jamais dit que nous ne reconfinerions pas dans les 15 jours à venir. Un reconfinement évité pour l'instant sur la base d'une enquête, notamment sur le variant variant anglais qui montre que la circulation du variant progresse de 50% chaque semaine, mais c'est moins qu'à l'étranger. Le variant circule moins vite qu'on le craignait, précise Olivier Véran. Pour le gouvernement, les nouvelles restrictions n'ont rien de mesures gadgets. Bien au contraire, elles sont faites pour empêcher les variants de circuler. Et depuis ce matin, la police vérifie que les nouvelles normes en vigueur sont bien respectées aux frontières, dans les grands magasins. Et cela même commencé hier soir avec des contrôles pour vérifier le respect du couvre-feu. Exemple à Grenoble avec une brigade de police. Reportage de Paul Tilliez, France Bleu Isère.
18h05 sous une pluie battante, les six policiers commencent par un petit tour du propriétaire, à commencer par les commerces de la caserne de Bonne.
On fait un contrôle de fermeture. Bon, il y a une marge de tolérance d'un quart d'heure, une demi-heure, en fonction des domiciliations des gens, parce qu'il y a aussi des gens qui rentrent du travail.
C'est parti, premier contrôle de la soirée, une dame qui rentre chez elle, un sac de courses à la main.
C'est à vous de prendre vos dispositions, pas sortir du magasin à 18h, faut anticiper. On pourrait très bien vous verbaliser pour ça. Allez, bonne soirée.
Ça passe pour cette fois. En revanche, ce retardataire, quelques mètres plus loin, n'y coupera pas.
J'allais voir quelqu'un. Bon, j'ai raté un peu le tram, mais je rentrais chez moi. Là. Toujours dans les temps, il suffit qu'une fois on se loupe, ben, ça nous tombe dessus. Hein. La fois, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Hein.
135 euros d'amende avec en prime la pluie. Sylvie est la commandante de la brigade. Pour elle, pas de renforcement des contrôles ces derniers jours. C'est la même chose depuis deux semaines.
On a bien dit qu'il fallait verbaliser les personnes qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas d'attestation pouvant justifier leur déplacement en dehors des horaires.
Et alors là, le monsieur avec le chien là-bas, là ça passe.
J'ai pas vu.
Et après vérification, tout est en règle.
Il avait une attestation qui était de 18h05, voilà, pour justifier qu'il puisse sortir son chien. Il avait coché la bonne case, donc il n'y a pas de problème.
Si on peut en avoir que des comme ça, c'est top.
Oui, et ça serait bien, oui, effectivement. C'est ce qu'on espère en tout cas.
Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Après des contrôles au feu rouge, les policiers ont distribué une dizaine d'amendes en une heure.
Paul Tilliez, France Bleu, Isère. Et en Europe, l'Espagne, comme la France, est réfractaire au confinement. Malgré le variant anglais qui poursuit sa course folle dans le pays, le gouvernement espagnol repousse l'idée d'une mise sous cloche du pays à la place des mesures plus chirurgicales et adaptées à chaque région et situation, Mathieu de Taillac.
En Espagne, on entend bien parler de confinement, mais de confinement périmétrique. En clair, des limitations à la mobilité. Il n'est pas possible de sortir d'une zone sans justificatif et raison valable, quartier, commune, département ou région, suivant les cas, mais on peut tout de même quitter son domicile en dehors du couvre-feu nocturne. Les limitations ne dépendent pas de critères chiffrés qui s'appliqueraient partout pareil en Espagne, mais de normes fixées par les communautés autonomes, les régions espagnoles, à l'intérieur d'un cadre établi par le gouvernement central. Et ce dernier ne veut pas de confinement à domicile. Pourquoi ? Officiellement parce qu'on a vaincu la deuxième vague sans enfermer les gens chez eux et qu'on pourra donc faire pareil pour la troisième. Officieusement parce que l'économie est exsangue, le PIB a perdu 11% en 2020. Sans oublier, disent les mauvaises langues, qu'il ne faudrait pas trop exaspérer les lecteurs à la veille d'un scrutin régional en Catalogne. Le candidat socialiste était encore ministre de la Santé mardi dernier. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Et puis, sachez que le ministère de l'Intérieur a publié ce dimanche sur son site internet la liste des motifs impérieux permettant les déplacements de la France vers les pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Le débat porte aujourd'hui sur la stratégie vaccinale de la France. La question est relancée ce matin par Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris et également maire Les Républicains de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. La France doit changer de stratégie, négociée directement avec les industriels, l'achat de vaccins et le rachat de licences pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Philippe Juvin.
Il faut aller voir M. Pfizer ou Mme Moderna et discuter avec eux et négocier l'achat de la licence. On achète leur licence et on fabrique sur le territoire national en montant des chaînes de production qui vont prendre 4, 5, 6 mois à mettre en œuvre. Et de toute façon, Moderna a intérêt, Pfizer, à nous la vendre. Pourquoi ? Parce que dans un an, ils sont dans une situation de concurrence, leur monopole sera terminé, qui fait qu'ils ont probablement aujourd'hui intérêt à négocier. Il y a un deuxième élément qu'on pourrait faire, il faut y réfléchir, c'est que l'Agence européenne du médicament, qui est l'instance qui autorise l'utilisation d'un vaccin sur le territoire de l'Union, a mis quand même beaucoup de temps, enfin plus de temps que l'agence britannique ou américaine pour agréer des vaccins. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à un principe qu'on a actuel, la reconnaissance mutuelle, ça existe en droit européen, qui consisterait à dire que dans les pays de même exigence sanitaire que nous, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, dès qu'un vaccin est reconnu par une autorité de ces trois pays, eh bien, on dit qu'il est aussi autorisé chez nous. Ça serait une manière aussi de vaincre une sorte de bureaucratie européenne qui nous coûte cher.
Philippe Juvin avec Ercine Lebovic. Et puis, il y a cette question du nouveau confinement et ce sondage IFOP pour le journal du dimanche qui montre que les Français sont favorables à un confinement à condition à condition que les écoles restent ouvertes, tout comme les commerces. 60% des personnes interrogées accepteraient donc ce nouveau confinement et 57% sont opposés à la fermeture des établissements scolaires et pour les écoles. Un possible reconfinement, eh bien, c'est une question clé. Invité de ce journal, Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Yanis Roder.
Bonjour.
Alors on le voit, cette question du confinement scolaire est très sensible. On a entendu la semaine dernière même des ministres se contredire sur ce confinement scolaire. On le voit aussi, les Français sont opposés à la fermeture des écoles. Pourquoi cette question, Yanis Roder, hante tant les parents, les profs, les ministres et les pédiatres? Pourquoi il faut absolument l'éviter selon vous?
Je crois, au regard des personnes dont vous venez de parler, des catégories de personnes, qu'il y a à chaque fois des raisons différentes. La première, pour les élèves eux-mêmes, la nécessité d'avoir un suivi scolaire, un suivi pédagogique. On a vu en mars-avril un décrochage très important, notamment dans les milieux les plus défavorisés, les milieux populaires. Pour les parents d'élèves, il est évident que les enfants à la maison posent des difficultés en termes de gestion à la fois de son travail, télétravail, et s'occuper des enfants, et notamment ceux qui sont en bas âge, ou même ceux qui sont scolarisés. Pour suivre la scolarité, c'est très difficile. Et puis, vous avez parlé des pédiatres qui parlent effectivement des problèmes que peuvent rencontrer certaines familles, certains jeunes, dans des relations par exemple intrafamiliales très compliquées. Il faut savoir que pour certains enfants, eh bien l'école c'est un lieu de respiration. Hein. On ne vit pas tous la même situation. Il y a des situations qui sont parfois très compliquées, voire dramatiques, et ce drame est accentué par le confinement.
Alors le décrochage scolaire dont on parle, Yanis Roder, c'est vraiment une bombe à retardement. Vous aviez d'ailleurs repris la formule après la première expérience du printemps dernier.
Alors il est vrai qu'avec la Fondation Jean Jaurès, nous avons été dans les premiers à alerter sur les difficultés que rencontraient les élèves en confinement. Et oui, nous avions parlé effectivement de véritables bombes à retardement. Alors il semble que la continuité pédagogique assurée par l'Éducation nationale ait évité, je crois, cette explosion de la bombe à retardement. Mais si l'expérience devait être renouvelée, j'ai peur que effectivement la situation s'aggrave. Les évaluations qui sont menées chaque année, vous savez, à l'entrée de CP, CE1 et 6e, ont montré un décrochage conséquent des élèves, notamment dans les zones d'éducation prioritaire.
C'est-à-dire, en reprenant l'expérience du printemps dernier, avec ce confinement scolaire, ça veut dire quoi? Que l'enseignement à distance ne fonctionne pas, les élèves perdent confiance, ils sont perdus, on n'arrive plus à les joindre, ils paniquent?
Alors, ça dépend des milieux, ça dépend des territoires, mais je vais vous relater mon expérience. Les 15 premiers jours du confinement du mois de mars 2020, j'avais entre 10 et 15 élèves sur 25 qui se connectaient à mes cours en visioconférence et qui suivaient, qui rendaient les devoirs. Il y a eu après les vacances de Pâques, donc il y a eu un effet vacances absolument dévastateur, puisque je me suis retrouvé parfois à faire cours à 3 élèves, en sachant que derrière, j'appelais les parents, j'appelais les élèves, les CPE, donc la vie scolaire de l'établissement, relançaient régulièrement les élèves. Il n'y avait parfois plus moyen de toucher ni les élèves, ni les familles. Donc ça devenait absolument très ennuyeux, voire catastrophique pour certains.
Alors Yanis Roder, on dit que dans certains collèges, un tiers des élèves ont décroché. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation? Et comment on rattrape le retard, si on peut rattraper le retard?
Alors dans certains établissements c'est un tiers, je vous assure que dans d'autres c'est même plus que cela. Donc comment on rattrape le retard? Eh bien il faut tenir compte, on a tenu compte au mois de septembre de ces retards, de ces difficultés. On a mis en place aussi des stratégies pédagogiques de manière à ne pas aller trop vite sur certaines choses qui n'avaient pas été vues ou qui demandaient d'être revues. Donc voilà, il y a eu des stratégies qui ont été mises en place. Il y a eu les vacances apprenantes qu'a mis en place le ministre Jean-Michel Blanquer. Tout cela a pu aider aussi ponctuellement, mais malheureusement, vous savez, un temps scolaire qui est perdu, il est quand même, au final, difficilement rattrapable.
Yanis Roder, la place des élèves est à l'école devant leur enseignant, c'est le message que vous voulez faire passer. Pourquoi la présence des élèves en classe et dans l'environnement scolaire est importante et essentielle?
Je crois d'abord, oui, que la place des élèves est devant leurs enseignants dans les établissements scolaires. Et les élèves ont besoin de cette ouverture au monde. Ils ont besoin de cette respiration républicaine qu'est l'école de la République. Ils ont besoin de parler, de dire des choses, de dire pour progresser. C'est extrêmement important. Et vous savez, moi, je suis très ennuyé en ce moment parce que dans les établissements scolaires, notamment des réseaux d'éducation prioritaire, il y avait les stages de 3e. Beaucoup d'établissements n'ont pas pu mettre en place ce stage. C'est aussi un moment de respiration et de découverte d'autres univers et notamment d'autres espaces sociaux, territoriaux pour nos élèves. Ils n'ont pas cette chance-là cette année. C'est quelque chose qui me semble, moi, ça, on peut penser que c'est anodin, que c'est quelques jours seulement, mais ce n'est pas anodin pour des élèves qui vivent parfois en milieu très fermé.
Yannis Roder, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter, professeur d'histoire-géographie et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Le football, toujours en ébullition à Marseille après les violents incidents d'hier au centre d'entraînement du club. 300 supporters ont pris d'assaut les bâtiments. 18 personnes sont toujours en garde à vue. Le club de Marseille compte déposer plainte. Il y aurait plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts, Jean-Saint-Marc.
Le champ qui se trouve sur le côté de la commanderie a été en partie labouré par la centaine de supporters qui a forcé l'accès. Hier, au centre d'entraînement, on trouve par terre les vestiges de cette intrusion, une chaussure sans doute perdue par un manifestant, des boîtes de pétards, des œufs et puis des cartouches de gaz lacrymogène utilisées par les policiers pour disperser les supporters. 3 cyprès ont été calcinés et un peu partout autour du centre, les barrières ont été défoncées. Là où je me trouve, les agents de sécurité ont placé du fil barbelé pour protéger le bâtiment sportif. C'est ici que certains supporters ont pris à partie plusieurs joueurs et l'entraîneur André Villas-Boas. Le défenseur Alvaro González a d'ailleurs été touché par un projectile, mais il va bien, selon son entourage. Il s'est entraîné ce matin avec ses coéquipiers, car l'OM a une semaine chargée, un déplacement à Lens mercredi et la réception du PSG dimanche.
Jean Saint-Marc à Marseille, merci. On retourne dans les Alpes à Chamonix pour une deuxième journée de slalom, comptant pour la Coupe du Monde de ski. Cela s'est beaucoup moins bien passé ce matin pour Clément Noël, vainqueur hier, éliminé aujourd'hui. En revanche, Alexis Pintiraud a bien figuré lors de la première manche. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Frédéric.
Je crois qu'il est en train de descendre.
Alexis, et il vient de franchir la ligne d'arrivée avec le 7e temps, 1 seconde 03 de retard pour Alexis Pintiraud sur le meilleur temps provisoirement avant le dernier passage, celui d'Henrik Christoffersen. Il est en retard sur Ramon Zenhausern. Pas de podium pour Alexis Pintiraud, mais il y a un Français, c'est la surprise, Victor Mufajordé qui est 3e, ex aequo avec 75 centièmes de retard sur Zenhausern. Alors là maintenant la question est de savoir s'il va y rester. Il y a un homme, Henrik Christoffersen, le Norvégien très à l'aise en slalom depuis des années, et s'il est à au-delà de 75 centièmes, eh bien on aura une surprise, on aura Victor Mufajordé sur le podium après la victoire hier de Clément Noël. Mais des points quand même pour Alexis Pintiraud, mais pas de podium pour lui ce week-end.
Guillaume Batin, en direct de Chamonix, merci. Épilogue aujourd'hui pour l'équipe de France de handball au championnat du monde en Égypte, avec un jour de petite finale face à l'Espagne pour la 3e place et la médaille de bronze lors de ces championnats du monde de handball. Le rock et les fans du groupe The Animals en deuil aujourd'hui. On a appris la mort du guitariste Hilton Valentine. Valentine avait 77 ans. Il était le fondateur du groupe The Animals et on entend leur méga tube The House of the Rising Sun. In New Orleans, they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God. The House of the Rising Sun, magnifique succès. Hilton Valentine, décédé donc ce matin à l'âge de 77 ans. La couleur du temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Jean-Michel Golinski.
Maintien d'un temps plutôt ensoleillé cet après-midi sur les Alpes et du Golfe du Lion à la Provence, mais ailleurs, le parapluie va souvent servir avec des pluies marquées dans la moitié sud, notamment sur la Corse et les Pyrénées en remontant vers le Limousin et les Charentes. Le vent va rester turbulent entre le couloir des Pyrénées et la Méditerranée et le risque d'avalanche fort sur les Alpes et le Massif central, et il va continuer à neiger cet après-midi sur la chaîne pyrénéenne. Dans la moitié nord du pays, les pluies qui arrivent par la Bretagne vont gagner vers la Belgique, le bassin parisien et le centre en fin de journée. Quant aux températures, elles ne dépasseront pas 3 à 5 degrés près de la Belgique et de la frontière allemande, contre 10 à 14 en général sur la plupart des autres régions, avec un maximum de 16 à 18 près de la Méditerranée. À l'heure qu'il est, une vingtaine de départements du sud-ouest, du nord de la Seine et de Franche-Comté sont maintenus en vigilance orange crue.
Jean-Michel Golinski de Météo France.